Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous emmène au musée. Rien de plus classique pour un passionné d'histoire et de patrimoine, me direz-vous. Et pourtant, savez-vous que les musées tels que nous les connaissons, ouverts au public, sont en réalité assez récents. Lorsqu'il s'agit de musées, la France bat tous les records avec plus de 1200 établissements répartis sur l'ensemble de son territoire. Mais du plus petit musée du monde, situé à Albaret-Sainte-Marie en Lozère, au Louvre à Paris, qui lui est le plus grand et le plus célèbre musée du monde, connaissez-vous leur origine historique? Commençons par un peu d'étymologie. Le mot musée vient du grec muséion, qui désigne le temple des muses. Pour rappel, ces neuf muses, filles de Zeus, représentent les arts libéraux, ces matières principales d'enseignement dans l'Antiquité. De la poésie lyrique ou épique à la danse, de la musique au chant, de la rhétorique à la grammaire, de la comédie à la tragédie, de l'histoire à l'astronomie, de la géométrie à l'arithmétique. Une origine mythologique donc, qui correspond bien à la définition actuelle du musée, un lieu de valorisation du patrimoine culturel passé ou contemporain à travers l'exposition et la conservation de collections d'objets d'intérêt historique, technique, scientifique et artistique. Mais s'il nous apparaît aujourd'hui banal d'arpenter leurs allées, il faut savoir que les musées tels que nous les connaissons ont une histoire plus récente qu'on peut le croire. Tout commence cependant à la fin du Moyen-Âge. Dès le XIIIe siècle, les rois comme Charles V, les princes et les ducs du royaume comme le duc de Berry se servent du mécénat d'art pour démontrer leur puissance. Mais c'est à la Renaissance, par imitation avec les princes italiens, que les rois de France vont officiellement s'inscrire dans un mécénat renforcé et engagé. Via ses campagnes italiennes, François Ier, qui va régner de 1515 à 1547, va ainsi non seulement rassembler des œuvres, mais aussi soutenir financièrement des artistes, comme Léonard de Vinci, qu'il fait venir à la cour, et il va aussi faire appel à des peintres et architectes italiens pour décorer les châteaux royaux, comme le Primatis ou le Rosso à Fontainebleau. Au XVIe siècle, Henri IV, qui régnera de 1589 à 1610, va lui faire bâtir la Grande Galerie du Louvre, côté Seine, pour accueillir les collections royales qui s'agrandissent. Mais c'est Louis XIV, dont le règne s'étend de 1643 à 1715, qui va donner au mécénat royal ses lettres de noblesse. Il met au cœur de son pouvoir le développement des savoir-faire artisanaux et artistiques qui feront le prestige de la France. Il enrichit ainsi les collections royales et s'entoure des plus grands artistes de son temps, les musiciens Jean-Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier, les peintres Charles Lebrun ou Hyacinthe Rigaud, les sculpteurs François Girardon ou Antoine Coisevox, ou encore les architectes Louis Levaux et Jules Ardoin-Mansart. Le roi Soleil commandera également nombre de mobiliers aux ébénistes Alexandre Jean Empernote ou bien sûr au célèbre André Charles Boulle, mais aussi des œuvres et objets d'art pour ses différents châteaux, du Louvre à Versailles, Fontainebleau ou Marly, dont il décore les intérieurs et les jardins pour mettre en lumière la gloire de la couronne et sa puissance de monarque absolu. Mais ses collections royales restent plutôt privées et confidentielles. Ainsi, dès 1661, lorsque le roi Soleil envisage des travaux à Versailles, qui n'est encore que l'ancien relais de chasse de son père Louis XIII, il réfléchit aussi à exposer ses collections d'œuvres d'art et de bijoux dans ce château qu'il ambitionne d'agrandir. C'est chose faite en 1682, année durant laquelle il s'installe définitivement avec sa cour à Versailles. En effet, dans les appartements intérieurs qu'il a fait construire en retrait de ses appartements officiels, Louis XIV va exposer ses plus beaux tableaux, ses bijoux les plus précieux et ses livres les plus rares, mais aussi une collection de médailles retraçant l'histoire de France et des objets que les ambassadeurs étrangers lui ont offerts. Sous son règne, seule sa famille et quelques privilégiés, amateurs d'art comme lui, sont alors invités à visiter ses espaces d'exposition privés. En réalité, c'est au XVIIIe siècle, avec l'émergence des Lumières, que les collections des plus fortunés commencent à s'exposer au public, dans des galeries parisiennes ou des cabinets, dits cabinets de curiosité, qui rassemblent œuvres d'art et autres curiosités scientifiques. En parallèle, des musées ouvrent à l'étranger, comme le British Museum à Londres. En France, c'est la Révolution qui va tout changer. Les biens et domaines royaux, comme ceux de l'Église et des nobles en fuite, sont saisis et nationalisés. Un inventaire des œuvres d'intérêt historique, artistique et scientifique est établi, et en 1793, trois grands musées sont créés, le Musée central des arts au Louvre, le Musée des sciences et le Muséum d'histoire naturelle. Sous le Consulat et le Premier Empire de Napoléon Bonaparte, qui sera au pouvoir entre 1799 et 1815, les grandes villes de France, mais aussi les villes des pays européens annexés par l'Empire comme Bruxelles ou Genève, vont recevoir le dépôt d'œuvres appartenant à l'État pour garnir leurs musées. Cette politique d'organisation et de répartition des collections nationales dans les musées va s'amplifier et se développer tout au long du XIXe et du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement des musées et leur diversité va s'accroître, avec notamment la naissance de grands projets, comme le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, le Grand Louvre ou encore plus récemment le MUCEM. Il faudra cependant attendre la loi du 4 janvier 2002 pour qu'un statut spécifique définisse les musées de France comme des institutions répondant à des critères scientifiques et culturels précis qui garantissent la qualité des établissements et de leurs œuvres. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Maintenant que vous en savez plus sur l'origine de nos musées, je vous donne donc rendez-vous dans vos établissements favoris pour explorer la richesse de notre patrimoine culturel. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.